le bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM. Aujourd'hui, nous recevons l'association Oisux, représentée par Damien, mais pas que, il fait aussi partie de l'association Ori en transition, un homme à la double casquette. Donc, avant de faire connaissance avec Damien, je vous présente l'accompagnement que j'ai aujourd'hui avec moi. Donc, Luc à la technique, notre marsouin, ça c'est un rituel, et Lou, notre atout jeunesse, qui a participé à un chantier numérique le week-end dernier. Donc Lou, tu vas nous en dire un petit peu plus. Et peux-tu refaire une présentation de Lou ? Parce que les auditeurs te découvrent au fur et à mesure.
Oui, au fur et à mesure. J'ai fait seulement, ça doit être la troisième émission à laquelle je participe. Et je suis nouvellement employé à la radio, Radio Valois-Milsien, depuis décembre. Et donc, je fais mes premiers pas. Premier reportage a été réalisé ce samedi, du coup, sur le chantier numérique. Et donc, oui, je pourrais en parler.
Et il sera diffusé prochainement sur les ondes de RVM.
Tout à fait.
Très bien, Lou. Merci. Donc, Lou, le numérique, il connaît très bien. Donc, il va nous aider pour cette émission. Vous allez comprendre pourquoi. Juste avant, si vous voulez réagir à cette émission, il y a le Facebook de RVM FM, le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Voilà. Donc, je précise qu'aujourd'hui, nous sommes en insert téléphonique avec Damien. Bonjour, Damien.
Bonjour à tous.
Donc Damien, est-ce que vous nous recevez bien ? Est-ce que ça passe bien ?
Ça passe très bien, oui.
Super.
Je ne vous cache pas que je suis un petit peu stressé, mais ça va aller.
Ah ben on ne le voit pas hein, au téléphone, ça ne se voit pas le stress, donc ne vous inquiétez pas. Ça peut peut-être se retranscrire dans votre voix, mais ça va pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc Damien, pouvez-vous vous présenter avant de présenter vos associations, s'il vous plaît ?
Alors, je suis Damien, donc Aurégeois depuis 5 ans. Je me suis engagé dans Ori en transition, une association un peu écologique, dans l'espoir de faire changer des choses au niveau de la ville, d'Ori-la-Ville. Donc j'ai intégré Ori-la-Ville en transition, enfin Ori en transition, pardon, en avril, et j'ai monté avec d'autres personnes d'Ori en transition le chantier numérique. Dans l'espoir de faire en sorte qu'on aille vers une espèce de sobriété numérique, qu'on évite de changer d'ordinateur tous les 3 ans, de voir autre chose que le système qu'on vend avec les ordinateurs qu'on achète en grande surface. Je parle des logiciels libres et Linux en particulier. Donc voilà, j'ai fait cet atelier samedi. Et donc j'espère qu'on va renouveler cette expérience, essayer de faire régulièrement au sein d'Ori et la Ville des ateliers récurrents pour présenter, utiliser des logiciels libres sur des ordinateurs qui ne sont pas du dernier cri, qu'on puisse réutiliser plus longtemps des ordinateurs qu'on a remisés dans les bibliothèques parce qu'ils sont trop lents avec le système qui a été vendu avec.
D'accord. Voilà. Donc cette association est tout récente, hein, Damien, c'est ça ? Elle a un an, je crois.
Elle a commencé en décembre 2020. Il y a une première publication dans les environs de mars-avril 2021. Moi, je me suis inscrit quasiment dès le début. Je ne fais pas partie du bureau, je fais partie des membres un peu actifs. On a travaillé avec Daphné, Clara, Ludivine et Jérémy pour faire en sorte que cette manifestation à Ori-la-Ville soit une réussite. Et vu le monde qu'on a croisé, je peux dire que c'était une réussite.
Alors, vous êtes inspiré d'un autre village, d'une autre ville, c'est ça, de Coy ?
Alors quoi en transition ?
Oui, je dis Coy ou quoi, oui, ok.
C'est quoi en transition ? Moi, je connais les villes en transition par Marc Épiègne de l'association Oisux. Donc, il m'a présenté Beauvais en transition. Donc, il y a quand même quelques années que ça existe. Et donc, quand j'ai su qu'il y avait le même esprit dans ma ville, je me suis empressé de m'inscrire.
Très bien. Et est-ce que c'est votre métier, Damien, ou c'est une passion ?
Alors, l'informatique, c'est une passion. J'ai une formation d'électronicien. L'informatique, c'est une passion. Je le fais, c'est une passion et c'est mon métier maintenant. Depuis plus de 20 ans, je suis dans l'informatique et en particulier sur Linux depuis pas mal de temps. C'est vraiment une passion, c'est essayer de comprendre comment fonctionne un ordinateur, donc le démonter, le remonter, et le faire vivre le plus longtemps, donc utiliser des logiciels qui soient légers et adaptables sur les ordinateurs qu'on a à notre disposition.
Très bien, ben je vous remercie. Ce que je vais faire, je vais laisser la parole à Lou, puisque Lou a fait la journée du samedi 29 janvier avec vous. Il vous a rencontré, il a assisté à cette prise de parole sur le numérique, c'est ça, hein, Lou?
Non, c'était un chantier numérique. C'était une collaboration entre les deux associations. Dites-moi, Damien, si je me trompe, hein, mais c'était une collaboration entre les deux associations. Oisux, qui est normalement basé à Beauvais, est venu en soutien, puisqu'ils ont cette expertise sur le domaine informatique. Donc, ils sont venus en soutien à Ori en transition, parce que la transition, c'est aussi quelque chose... qui touche au numérique, puisque le numérique est omniprésent aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, en effet, j'ai participé à ce... je me suis rendu à ce chantier numérique en tant que visiteur. Et j'ai réalisé un petit reportage qui sera diffusé prochainement.
Voilà. Donc, on va préciser, c'est Ori en transition et transmission, on peut dire aussi. Hein.
Voilà, Ori en transition sera en transmission. Tout à fait. Et donc j'ai rencontré Marc et Piègne. Marc Epiègne, que j'ai interviewé, qui représentait l'association Oisux. J'ai rencontré Thomas de l'association Ori en transition et aussi Daphné de l'association également Ori en transition. Donc j'ai une pluralité de voix comme ça.
Oui, alors je crois que tu as sélectionné un extrait de ton reportage, Lou.
Oui, tout à fait. On peut
le mettre maintenant. Vous l'écoutez, Damien?
Ah,
peut-être
que
tu ne vas pas pouvoir écouter, Damien. C'est possible. Ok, donc on y va alors.
Ori en transition, c'est un collectif citoyen. Pour promouvoir la transition, transition énergétique, mais en fait c'est un petit peu plus large que ça, c'est transition vers un avenir un peu plus sobre, plus éthique, plus respectueux de l'environnement et voilà, c'est un mouvement qui est les villes en transition, c'est un mouvement qui est né d'Angleterre, qui a été créé par notamment une personne, un professeur qui s'appelle Rob Hopkins.
C'est l'oreille dans le coin.
Nous, cet après-midi, c'est spécifiquement le numérique. C'est comment le numérique peut préserver la planète, peut faire en sorte qu'on consomme sans que ça devienne dangereux. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce qui est proposé cet après-midi. Nous, on s'est greffé là-dessus. Et aussi, la démarche, c'est de développer le local pour ne pas consommer à outrance. Donc, on veut faire durer le matériel. On veut apporter des solutions informatiques pour les matériels les plus anciens. Ça fait l'objectif de cet après-midi.
Voilà. Donc, Damien, vous vous y retrouvez. C'est ce que vous avez dit en début d'émission. On est bien dans le thème. Hein.
Effectivement, Thomas et Marc.
Oui, tout à fait. Donc oui, Thomas en premier était la première personne et puis Marc la seconde sur cet extrait. Et donc, le chantier numérique, effectivement, a commencé en début d'après-midi et ça a fait venir pas mal de monde. Je crois qu'il y avait aussi bien des novices que des plus intéressés par le domaine numérique. Et ça faisait plaisir à voir que les solutions proposées par Oisux, notamment les logiciels et systèmes libres, se développent et soient partagés ainsi.
Donc ça vient d'Angleterre, alors si on a bien compris.
Alors,
c'est ça.
C'est le mouvement des villes en transition qui vient d'Angleterre ce professeur Rob Hopkins. Les systèmes et logiciels libres, c'est quelque chose qui existe depuis l'apparition de l'informatique. Les tout premiers informaticiens avaient déjà cette pensée-là, avant que les multinationales n'en fassent quelque chose de monopolistique.
Oui. Du coup, Damien, votre objectif, c'est aussi de développer sur d'autres communes ce que vous faites ?
Non, en fait, j'ai fait longtemps partie de l'association Oisux. J'en fais encore partie en tant qu'adhérent. J'étais membre du conseil d'administration pendant quelques années. On a fait beaucoup de manifestations avec Oisux sur l'Oise. mais j'avais l'envie de faire des choses un petit peu plus locales, comme le précise Marc, et c'est de faire des choses avec les habitants de ma ville, que je puisse rencontrer, que je puisse échanger avec eux, un ordinateur en panne ou qui est un petit peu à la ramasse, essayer de le réparer, de le remettre en service. C'est ce que j'avais envie de faire au sein d'Aury-la-Ville. Donc c'est pour ça que j'ai intégré Aury en transition. Mais je suis toujours adhérent de Voisux. Je reste toujours bloqué. J'ai toujours un œil sur l'activité de Voisux et des autres associations nationales autour des logiciels libres.
Très bien.
Framasoft, l'April, des choses comme ça.
Oui, c'est ça. C'est important, un logiciel libre, parce que là, les logiciels qu'on utilise le plus, c'est pas libre. Ça, je l'avais pas compris, moi, au départ. Donc, Elou m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Donc,
Damien, qu'est-ce qui fait la différence entre le libre et un logiciel privé ou propriétaire ?
Alors, un logiciel libre doit répondre à 4 exigences. Ce sont des libertés, ce ne sont pas des obligations, ce sont des libertés. Les 4 exigences, c'est la possibilité d'utiliser le programme sur n'importe quel ordinateur et en faire ce qu'on veut. Donc il n'y a aucune interdiction sur l'usage qu'on en fait. C'est la première liberté. La deuxième liberté, c'est l'accès aux sources. C'est de savoir comment le logiciel fonctionne et comment on peut l'améliorer. Donc ça, c'est la deuxième liberté. La troisième liberté, c'est la possibilité de distribuer le logiciel qu'on a récupéré ou le logiciel qu'on a modifié. Donc on reçoit un logiciel, on le modifie, on l'améliore, on le corrige, on peut le redistribuer. Alors la redistribution ne veut pas dire la gratuité. Ça peut être une vente. Un logiciel libre peut être vendu sans problème. Et la quatrième liberté, c'est la liberté de modifier, comme j'ai dit tout à l'heure, de modifier, d'améliorer le logiciel. Donc ce sont ces 4 libertés-là. Un logiciel libre a de grandes chances d'être gratuit, mais un logiciel libre peut être payant aussi. Un logiciel gratuit ne veut pas dire être libre. Si je vous donne un crayon, il sera gratuit pour vous. Mais si je vous explique comment est-ce que je l'ai fabriqué, comment, avec quel matériau je l'ai fabriqué, vous pourrez l'adapter à votre main, à votre usage, grossir la taille de la bille, par exemple, ou la taille du diamètre du stylo, et vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Et donc, ce stylo-là est libre, il n'est pas gratuit. La liberté est plus importante que la gratuité. Un logiciel propriétaire, c'est que vous n'êtes pas vous-même, quand vous achetez un logiciel propriétaire, vous n'êtes pas propriétaire du logiciel. Vous payez le droit d'utiliser le logiciel. Et vous n'êtes pas propriétaire du logiciel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le corriger, vous ne pouvez pas l'améliorer, vous pouvez difficilement, voire très difficilement, comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Donc ça, c'est un logiciel propriétaire. Majoritairement, les logiciels qu'on achète avec un ordinateur sont des logiciels propriétaires. Donc, quand on achète dans une grande surface un ordinateur, il est livré avec un système d'exploitation qui est forcément un logiciel propriétaire, une marque avec la pomme ou un truc avec une fenêtre.
D'accord, donc, ouais. Ça, on comprend là, voilà, on comprend, oui.
Donc ces ordinateurs-là, on peut aussi en avoir sans système d'exploitation. On peut installer soi-même son propre système d'exploitation.
Parce que
Mais ça change le prix de l'ordinateur ou pas,
hein ? Une licence. Alors malheureusement, le prix de la licence des produits. Des logiciels propriétaires, n'est pas mentionné sur le prix d'achat.
D'accord.
Il n'y a pas de transparence
à ce niveau-là.
Il n'y a pas de transparence. Malheureusement, une licence Windows coûte environ 300 euros. Donc sur le prix d'un ordinateur, il y a environ 300 euros
qui est
lancé pour une multinationale qui n'est pas française, qui n'est même pas européenne.
Oui.
Alors qu'un système Linux, on peut installer des distributions Linux. Moi, je suis fan depuis presque 20 ans d'une distribution qui s'appelle Debian, Il y a d'autres distributions qui sont plus ou moins adaptées à ce qu'on a envie de faire avec un ordinateur. Alors, on peut faire de la composition vidéo, de la composition musicale, des choses comme ça, un petit peu plus pointues. On peut vraiment adapter son ordinateur à l'usage qu'on veut en faire.
Oui, Damien, une question, parce que moi, je suis un néophyte, hein, complètement. Hein. Linux, c'est quoi ? C'est quelque chose de français, européen, c'est quoi ?
Alors, c'est même pas français, c'est pas européen, c'est mondial.
Ah, ok, d'accord.
C'est en fait un étudiant qui a développé un système pour parler à depuis son ordinateur personnel, pour parler à des ordinateurs de sa faculté. Et son logiciel, il a rajouté des fonctions, il a rajouté des choses qui lui étaient indispensables pour apprendre à programmer. Et puis en fait, son travail là, il l'a donné à la communauté. Et cette communauté a rajouté des choses, a fait en sorte que le système depuis maintenant 31 ans fonctionne de façon communautaire, des améliorations, des corrections, des évolutions, et ça fonctionne sans intervention sans vente du système. C'est la gratuité, mais plus la liberté en fait.
Et alors, le système Linux, ça a été développé par cet étudiant. Et la communauté autour, parlons-nous de GNU, qui avait été développé par des passionnés, par cette communauté. Et c'est la contraction du noyau Linux et de l'architecture GNU qui a donné le premier système libre.
Oui,
bon, moi je décroche, hein, ça y est, là je suis plus là.
Bon, alors on va revenir sur.
Expliquez bien, hein, parce que derrière, GNU, c'est quoi ?
En fait, GNU, c'est un système qui a été inventé par, enfin pas un système, mais une association, un esprit qui a été inventé par Richard Stallman en 83. Richard Stallman travaille dans un laboratoire et dans le laboratoire, il avait une imprimante qu'il partageait avec ses collègues. Et pour cette imprimante, ils avaient développé tout un écosystème, un envoi de messages quand l'impression était terminée, pardon, ou alors un message d'alerte en disant j'ai un problème de bourrage papier, j'ai plus d'encre, des choses comme ça. Donc ils avaient fait évoluer le logiciel de l'imprimante par rapport à leurs besoins. Mais physiquement, l'imprimante était vraiment à la ramasse, donc ils l'ont changée. Et ils ont racheté une imprimante moderne, mais ils n'ont pas eu accès au logiciel qui permettait d'améliorer, de rajouter des fonctions qu'ils avaient avant sur l'imprimante précédente. Donc Richard Stallman a trouvé ça pas normal qu'on puisse lui interdire l'accès au logiciel. Et il s'est un petit peu révolté et il est devenu la tête d'un esprit d'accès au code source. Au début de l'informatique, il n'y avait pas de notion de vente. On distribuait le logiciel à partir du code source, ce qui permettait d'améliorer, de corriger les problèmes. Et ensuite, dans les années 70-80, ça a été un petit peu plus marchandisé. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a eu beaucoup plus de fermeture, de réappropriation du logiciel par les fabricants. Et ils ont fermé le code source. Et ce qui a fortement déplu à Richard Stallman.
Donc au début de l'informatique, quand l'informatique commençait à se développer, les premiers hackers, les premiers codeurs comme Richard Stallman, ils avaient cette volonté de bidouiller aussi bien au niveau matériel, la machine, qu'au niveau virtuel de coder le logiciel. Et c'est quand les multinationales marchandes ont commencé à en faire un marché, qu'ils ont dû mettre des brevets et refuser l'accès au code. Et c'est à partir de là qu'il y a ces deux tendances qui se sont séparées, c'est bien ça ?
Tout à fait. En 83, après avoir essayé de faire en sorte que ça soit... Enfin, Richard Stallman, il a commencé bien avant 83, mais en 83, il a mis en place cette association qui s'appelle FSF.
La Free Software Foundation.
Tout à fait. Donc, il a, il a fait une espèce de... C'est une fondation sur les logiciels libres, et ils ont essayé de monter un système d'exploitation libre. Donc ils avaient tous les logiciels autour, le bash, tout ce qui concerne le fonctionnement de l'ordinateur, sauf malheureusement le noyau. Est-ce que le noyau, c'est ce qui est le plus proche du matériel. Et donc le noyau, ils avaient essayé de développer un noyau avec des spécificités assez modernes. Ils ont eu énormément de difficultés à développer ce noyau. Et ils se sont basés sur le noyau qui avait été créé par Linus Torvald, Linux. Donc c'est pour ça qu'une distribution Linux, on devrait l'appeler GNU Linux, puisque c'est l'association de l'esprit du GNU et du noyau Linux.
Eh bien, merci pour ces précisions. Hein. Au moins, ça éclaircit un petit peu mon disque mémoire qui n'est pas très... il a du boulot. Hein. Je suis bien content que Lou soit avec moi, parce que là, j'aurais été vite largué dans la discussion. Hein. Et Damien, comment on se passionne comme ça, alors? Comment vous est venue cette passion?
Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai appris sur le tas. Oui. Et en fait, en apprenant sur le tas, on apprend plus facilement avec des objets qui nous permettent d'apprendre. Avec le code source fermé, on n'a pas accès aux sources, on a rarement accès aux traces d'exécution. On n'apprend pas. Mmh. On est un chimpanzé à cliquer sur des boutons parce que c'est écrit comme ça sur la notice. Alors qu'avec un logiciel libre, on peut essayer de savoir comment ça fonctionne et puis le corriger si c'est nécessaire. Et on peut participer. L'avantage, c'est que la participation, elle n'est pas là au niveau qu'au niveau du code. Elle est aussi là dans la participation à des forums, à des manifestations, comme j'ai pu faire samedi. C'est ça, faire vivre le logiciel libre.
Oui. Et comment réagit justement la population d'Ori? Parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ne savaient pas qu'on pouvait utiliser son ordinateur beaucoup plus longtemps et puis faire plein de choses autour de l'environnement. Vous devez être surpris, c'est sûrement des réactions des gens. Quoi. Ça doit être un peu comme moi, un peu interloqué des choses qu'on ne sait pas. Quoi.
Tout à fait. Mais en fait, Linux, il est présent partout. Il est présent dans vos modems, pour vous connecter sur Internet, dans vos télés, dans la voiture. Linux est un peu partout, mais c'est justement parce qu'il est partout, il se fait discret. Mais il est là.
D'accord.
Il est là, il est dans les téléphones. Android, c'est un système Linux avec une grosse couche de Google, mais c'est un Linux qui est derrière. Donc il y a effectivement un manque de communication, mais c'est aussi ça, la robustesse de Linux. Pour moi, l'informatique, c'est comme une forêt. Si vous n'avez qu'une seule essence d'arbre dans une forêt, s'il y a un parasite, vous allez fragiliser la forêt, voire la faire disparaître. Avec un système Linux, avec des logiciels libres, il n'y a pas que Linux, hein, il y a du BSD, par exemple, qui est un autre système, qui est aussi système libre, moins répandu, mais plus élitiste, parce que c'est quand même quelque chose de plus ardu que Linux. Donc en diversifiant les systèmes d'exploitation dans notre informatique, on a une informatique beaucoup plus fiable.
Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup des systèmes libres.
Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il y a du libre. Mais il est pas visible. Dans la télé, alors, c'est du logiciel libre, mais on n'a pas accès aux sources.
Oui, alors que je précise, le système libre avec un environnement graphique qu'on a sur un ordinateur personnel, il y en a beaucoup de différents alternatifs, oui, à Windows et Mac.
Alors, il y a effectivement... Alors, Linux, c'est un système vraiment pour le grand public, pour les entreprises avec des serveurs sous Linux. Il y a énormément de distributions Linux. Une distribution Linux, c'est le noyau Linux avec les logiciels. Et le fonctionnement, le ciment entre les logiciels et le noyau pour installer, pour configurer, pour supprimer des applications. Tout ça, on appelle ça une distribution Linux. Et en gros, il y a cinq grosses distribution, 5 ou 6, Debian, Red Hat, Gentoo, Arch Linux, des distributions qui ont une spécificité qui leur sont propres. Mais il y a des centaines, voire des milliers de distributions qui se basent sur ces 5 ou 6 distributions maîtresses. Donc il y a Ubuntu, par exemple, qui utilise le travail de Debian. Ubuntu développe aussi des choses qu'ils intègrent dans Ubuntu, dans leur distribution, mais ils réinjectent aussi leur travail dans la distribution Debian dont ils s'inspirent. Et sous Ubuntu, il y a d'autres distributions, Pop Linux par exemple. Et il y a une myriade de distributions Linux qu'on peut plus ou moins facilement installer sur un ordinateur.
Mais alors, c'est quand même fou qu'avec cette myriade, comme vous dites, de distributions différentes, accessibles en toute liberté, à chaque fois qu'on achète un ordinateur, dans la majorité des cas, on tombe sur une de ces deux multinationales américaines qui ont pris un monopole sur le domaine informatique, alors.
Tout à fait, mais en fait, parce que la proposition, les grandes surfaces ne vendent que ces systèmes-là. Ils n'ont pas le courage de vendre des ordinateurs sans système d'exploitation.
Et est-ce qu'il y a des entreprises qui font le choix de plus en plus, peut-être un peu plus, d'aller sur des systèmes libres ?
Tout à fait, on peut très bien soit monter son ordinateur sans système d'exploitation, depuis on achète toutes les pièces pour monter son ordinateur, soit on peut acheter des ordinateurs qui sont tout faits, mais sans système d'exploitation. Et le système d'exploitation, on le télécharge depuis Internet, ou on le récupère sur des CD dans des revues, on l'installe plus ou moins facilement sur les ordinateurs et ça marche.
Alors, on a beaucoup parlé des systèmes et des distributions. Et alors, pour ce qui est des logiciels et puis des plateformes ou solutions sur Internet, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'il y a aussi ces deux dualités entre le libre ou le open source et le privé propriétaire ?
Alors, sachant qu'un Linux, c'est un logiciel libre, c'est un système d'exploitation, mais on peut utiliser des logiciels libres sur un système d'exploitation propriétaire. Firefox, par exemple, qui est un navigateur Internet, peut très bien être utilisé sur des plateformes propriétaires. LibreOffice, par exemple, aussi, est un logiciel libre qui fonctionne sur Linux et sur d'autres plateformes. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de contrainte sur le logiciel libre, puisque, comme je l'ai dit au début, un logiciel libre, on l'utilise et on en fait ce qu'on veut, et sur n'importe quelle plateforme. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
Oui, oui. On est bouche bée, hein, on ne sait plus quoi dire, voilà, c'est pour ça. Damien, ce que je vous propose, qu'on passe de Linux à Gilux, si vous voulez bien. Oh, c'était facile à faire, celle-là. En proposant votre choix musical.
Oui, alors j'ai choisi Alain Souchon parce que, déjà, je suis un grand fan d'Alain Souchon, et il y a dans les paroles de cette chanson le fait d'aller vers une espèce de sobriété, d'éviter de surconsommer. D'éviter de... En fait, consommer ne rend pas plus heureux que ne pas consommer.
Très bien. Voilà. Allez, on se retrouve juste après Alain Souchon, Foule sentimentale.
Pas commercial. sentimental. Il faut voir comment. Et triste et sans aucun avantage, on nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales avec soif d'idéal. Attirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment.
Voilà, Alain Souchon, Foule sentimentale, un très beau choix, Damien. Donc, vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est l'émission Le Bouche à Oreille qui reçoit aujourd'hui l'association Ori en Transition et Oisux. Alors, je dis reçoit, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on en a un cerf téléphonique. Mais on a l'avantage de partager avec vous, Damien, votre passion. Et purée, il y a du lourd quand même. Hein. Damien, je voulais juste, avant qu'on continue, je vais quand même préciser que les gens, s'ils veulent vous poser des questions, il y a le Facebook de RVM FM. Le téléphone, c'est le 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont un peu comme moi, largués par le numérique, qui auront peut-être plein de questions à vous poser. Damien, le week-end dernier, quel était le profil des gens qui sont venus vous voir ? Des jeunes, des anciens, il y avait quoi ?
Alors, j'avais, donc en préparant la manifestation, j'ai fait la connaissance d'une personne qui avait monté sa propre borne d'arcade à base de logiciels libres et de matériel plus ou moins libre, qu'on appelle Raspberry Pi. C'est un tout petit ordinateur, et donc il a monté sa borne d'arcade. Et donc je lui ai demandé de la porter. Ça a nous permis de faire venir des enfants, de les faire jouer, de faire découvrir le logiciel libre de façon ludique. Donc il y avait quelques enfants, mais c'était plutôt des parents qui voulaient réutiliser des ordinateurs qu'ils avaient remisés parce qu'ils étaient trop lents. J'ai récupéré un ordinateur d'une marque avec une pomme dessus pour installer Linux dessus. Donc je vais m'atteler à la libération de cet ordinateur. Donc c'était plutôt des parents, des jeunes parents, on va dire,
oui.
Avec des enfants en primaire, au collège.
Alors une borne d'arcade, c'était la console de jeu qu'il y avait ?
C'était comme on avait dans les années 80-90 dans les cafés.
Parce que cette fois, c'est moi qui décroche. La borne d'arcade, j'ai jamais entendu ça.
Une borne d'arcade, c'est une console de jeu qu'on avait dans des centres pour les ados, les centres de loisirs ou les cafés. Et on joue à des jeux plus ou moins violents, des Tetris, des choses de baston, Street Fighter, des choses comme ça.
Ça bastonnait déjà à cette époque-là. Hein, donc,
ça bastonnait plus ou moins joyeusement.
Oui.
Il y avait une borne d'arcade. Moi, j'avais apporté un autre ordinateur avec un Raspberry Pi. C'est un lecteur multimédia qui me sert de réveil. Une autre personne était venue avec un ordinateur pareil, avec un Raspberry Pi, mais vraiment la fonctionnalité, c'était l'ordinateur. Et moi, j'avais deux ordi, un ordinateur qui est relativement récent, qui doit avoir 3 ans, et l'autre, il a presque 6 ans.
Alors, qu'est-ce que c'est un Raspberry Pi exactement ?
Un Raspberry Pi, c'est un ordinateur qui est tout est intégré. C'est un ordinateur qui n'est pas plus grand qu'une carte bancaire. C'est pas une foudre de guerre. C'est pas quelque chose d'hyper puissant. Mais on peut faire des choses assez sympathiques. Une station météo, par exemple, on peut faire de la surveillance, prendre des photos d'animaux sauvages, par exemple. On peut faire plein de choses. En fait, la seule limite, c'est l'imagination qu'on a à l'utiliser.
Très bien. Alors, moi, j'ai un ordinateur qui a 10 ans. Je vais vous l'amener, Damien, alors. Je vais aller voir votre association.
Hein,
ben voilà. Hein.
Avec plaisir.
Parce que c'est vrai que 10 ans, ça commence à faire, durée de vie d'un ordinateur à peu près. Vous savez ?
Eh ben jusqu'à ce qu'il meure.
D'accord. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas
de... Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de... Après, on peut effectivement... on peut changer son usage. Par exemple, faire du stockage. Un ordinateur peut très bien stocker toutes les photos qu'on a sur d'autres ordinateurs. Centraliser des messages, par exemple. On n'a pas besoin d'avoir un ordinateur avec un écran avec une très belle résolution pour ce genre de choses. On peut faire en fait l'ordinateur, à partir du moment où il fonctionne encore, on peut lui installer un Linux avec une fonctionnalité particulière. Donc un ordinateur, s'il n'est pas mort physiquement, il est utilisable.
Très bien, ok. Bon, ben voilà, donc on note tout ça, hein, on met ça de côté parce qu'on aura sûrement besoin de vous dans quelques temps à la radio, hein, c'est sûr. Damien, je voulais savoir, il y a une adhésion pour votre association ? Comment on fait pour les gens qui habitent au RI ? Parce qu'elle est réservée qu'aux gens d'au RI, je pense, pour l'instant.
Alors là, comme j'ai dit au début de l'émission, comme je n'ai pas de responsabilité dans le
bureau,
dans
oui.
le bureau, ce genre d'informations, je les ai pas à disposition. Je vous invite.
Donc c'est d'aller sur le site de votre association.
Tout à fait.
Alors,
ok. Tout à fait.
Ok. Donc et pour par contre pour OASUC, j'ai vu que la cotisation c'était 10 euros, c'est ça?
Oui, c'est 10 euros et enfin c'est un montant qu'on veut à partir de 10 euros.
Alors, sachant que n'importe qui peut venir sans être adhérent pour demander vos services. Être adhérent, c'est pour participer à la vie de l'association, hein, c'est bien ça?
Tout à fait, tout à fait.
C'est ouvert
que
à tout le monde.
Auré en transition ou à Zux, il y a toujours, on accepte toujours avec bienvenue les volontaires les volontaires quoi.
Alors, j'aimerais qu'on parle de la brique. Lou, peux-tu nous en parler avec Damien? C'est quoi la brique?
Ah bah je vais laisser Damien en parler. Si j'ai bien compris, c'est l'ensemble des services web que vous proposez par l'association Zux, c'est cela?
Tout à fait, tout à fait. Donc la brique, c'est un ordinateur un petit peu plus puissant que le Raspberry Pi. C'est un autre ordinateur qui consomme très peu et qui héberge des services, des framadates par exemple pour échanger, pour faire un sondage par rapport à une date. Vous êtes membre d'une association. Vous avez besoin de faire une réunion, vous proposez des dates et chaque participant vote pour une date. Donc ça, c'est des hébergements, ça peut être un site web, ça peut être de quoi faire un sondage ou pour échanger des fichiers. Plutôt que d'envoyer un mail avec une pièce attachée plutôt que d'envoyer un mail avec une pièce attachée, on envoie un mail sans pièce attachée, mais on met à disposition ce fichier-là sur un hébergement. Ça permet, pareil, toujours pour une association, même pour une famille, plutôt que d'envoyer une photo à 15 personnes, on envoie la photo sur un site et on propose aux personnes de se connecter sur ce même site pour récupérer la photo. Donc on allège la communication la communication Internet. Donc la brique Internet, elle est hébergée par un adhérent de OASUX qui est fibré et donc il propose des services web assez intéressants sur pour les utiliser. Enfin, veuillez m'excuser, je suis pas très très clair sur cette explication-là.
Bah écoutez, c'est pas grave, moi j'ai décroché depuis un petit moment, donc je reviendrai vers vous après l'émission pour un peu plus expliquer. Mais le mieux, c'est d'aller vous voir, quoi, d'aller découvrir ce que vous faites. C'est quand même beaucoup plus simple quand on est directement sur place. Où il y a des tutos aussi, j'ai vu, vous avez des tutos pour expliquer les choses.
Oui, alors, le site web oasux.org est assez fourni et il y a une présentation de la brique Internet.
Voilà, Je pense qu'avec les tutos, on comprend beaucoup plus facilement aussi, hein, bien sûr. Et c'est quoi le chaton alors?
Alors, le chaton, c'est un collectif. La définition d'un chaton, c'est collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, neutres et solidaires.
Okay. Ce sont vous avez oublié le O de ouvert.
Ah oui.
Attention, hein, ça recadre hein, tout de suite, hein, vous avez vu. Hein.
donc en fait, c'est la possibilité c'est une personne qui a un hébergement, soit un auto-hébergement, c'est-à-dire chez lui, ou alors il loue les services d'un hébergeur national ou mondial, et il met à disposition des services comme la brique Internet. Met à disposition ces services-là.
Avec une certaine charte éthique qui regroupe les chatons, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Il y a un respect puisque le chaton est souvent associatif. Il y a beaucoup de chatons qui sont gratuits. D'autres sont à contribution. Il y a une petite contribution pour les frais engendrés par l'hébergement. Donc les chatons, ça vient de l'esprit de Framasoft, qui est une association nationale pour les logiciels libres, un peu comme l'April, mais un petit peu plus basé sur le logiciel. L'April, c'est plus dans la sensibilisation du public. Je veux pas parler de lobbying, mais c'est presque ça. Donc Framasoft développe des logiciels, ils les testent chez eux sur leur serveur, et une fois qu'ils sont relativement stables, ils mettent à disposition ces logiciels pour les chatons. Donc il y a une évolution. Il y a par exemple le Mastodon qui a été hébergé par Framasoft, qui s'appelle Framapiaf. Le Mastodon, c'est un Twitter. C'est un Twitter libre.
Avec des pouettes.
Avec des pouettes, oui.
À la place des pouettes. On va pas tweeter, on va pouetter, enfin on va lancer un pouette.
Tout à fait.
Et alors justement sur la sensibilisation des gens sur ces questions-là, est-ce que par exemple à Beauvais, la mairie de Beauvais écoute l'association Oisux sur ces sujets-là, et est-ce que plus globalement vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience au niveau de l'utilité, au niveau de l'éthique et de la pertinence d'utiliser des systèmes et logiciels libres au niveau des institutions par exemple?
Alors l'État français essaie d'imposer les logiciels libres. Bien que certains sites utilisent encore des Google Analytics qui me déplaît fortement. Non, au niveau beauvaisien, la relation entre la mairie et l'association est, je pense, bonne, bien que je ne puisse pas vraiment la qualifier, puisque ça fait quand même quelques années que j'ai décroché du côté administration de l'association Oisux. Mais la relation entre la mairie et Oisux est pour moi assez bonne, puisque on a des échanges, des possibilités d'hébergement physique pour faire des ateliers, des choses comme ça. Donc la relation est assez bonne.
Et alors j'ai découvert il y a quelques temps, justement, vous disiez que l'État français pousse à l'utilisation des logiciels libres. Il y a même sur un des sites gouvernementaux officiels un site qui répertorie les logiciels promus par le gouvernement.
Tout à fait.
Je ne sais plus sur quel site du gouvernement c'est, mais si on tape logiciels libres gouvernement, je crois qu'on tombe assez facilement dessus. J'ai été très surpris de cet engagement au niveau politique.
En fait, c'est parce que le logiciel n'est plus la propriété d'une entreprise, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que en laissant les codes sources à disposition de tous, on peut améliorer, on peut sécuriser un logiciel. Une fois qu'on a découvert une faille de sécurité, en ayant accès au code source, on peut très facilement la corriger. Avec un logiciel propriétaire, une fois qu'on a trouvé la faille, il faut attendre la bonne volonté de l'éditeur pour la correction. Donc ça peut être long et dangereux pour sa propre sécurité informatique. Donc l'avantage du logiciel libre est encore là au niveau professionnel. Pour moi, c'est quelque chose d'important.
On va préciser aussi que vous pouvez aider des entreprises, hein, c'est ça, hein, Damien?
Alors, c'est pas des entreprises, ça serait plutôt des PME.
Des PME, d'accord, ok.
On peut facilement intervenir, aider. J'ai participé à la maintenance d'une école à La Chapelle en Serval, où il y a 18 ordinateurs sous une distribution libre qui s'appelle Primtux, une distribution qui est essentiellement à but éducatif, Avec des jeux ludiques pour apprendre à compter, à lire, à utiliser un ordinateur. Donc Primtux est une distribution qui a été promue par Oisux. On a fait avec Marc un salon où on a fait la promotion de Primtux. Et donc on participe un peu à la vie informatique des écoles de l'Oise avec Oisux.
Très bien. On va préciser pour Oisux que l'association est née en 2006, en août 2006. Voilà. Damien, vous voyez comment l'avenir pour le numérique ?
Alors,
pour et pour nous, en même temps, allez, tiens, tant qu'on y est, si vous avez une vision des choses à long terme.
Moi, l'objectif de la manifestation réalisée samedi, c'était essayer de sensibiliser les gens à éviter de changer d'ordinateur parce que la touche tab fonctionne pas. On change l'ordinateur parce qu'il est un peu lent. Non, ça marche pas comme ça. Un ordinateur, ça se répare. On change le système d'exploitation. Ça se soigne. Ça s'entretient en fait un ordinateur. C'est pas quelque chose qu'on doit changer tous les 3 ans parce qu'il y a une nouvelle pub avec un ordinateur plus puissant. Mmh. Un ordinateur, ça s'entretient. Moi, mes ordinateurs, je les ai rarement changés avant une mort définitive du matériel. Mmh. Voilà. Donc, essayer de faire en sorte que on consomme un peu moins et consomme un petit peu plus avec intelligence
Et en faisant ça, on protège l'environnement. Alors c'est ça aussi,
bien sûr. Tout à fait, parce que un ordinateur, ça se fabrique pas comme ça. C'est beaucoup de, il y a des extractions de minerais. Il y a des, il y a tout un cycle de fabrication qui est, c'est presque 75% entre la distribution, la fabrication et la distribution. C'est presque 75% de la consommation d'un ordinateur en fait. Rien que cette partie-là, c'est 75%. Le reste, c'est rien quoi. L'utilisation, 25% d'utilisation dans l'utilisation d'un ordinateur. Donc l'extraction, elle est coûteuse pour la nature. Elle est coûteuse dans les transports. Donc il faut essayer de faire attention. On achète un ordinateur correct, costaud, mais on l'entretient correctement. On fait attention, on fait des mises à jour, on gère correctement son ordinateur.
Et tout est recyclable dans l'ordinateur, Damien, ou il y a des pièces qu'on ne peut pas recycler ?
Alors, un ordinateur recyclé, les matériaux qui sont dedans, on peut facilement les recycler. Mais ça ne se jette pas, il faut faire attention à où on les met.
Oui.
Il y a des entreprises qui font du recyclage, du démantèlement. Donc ils vont prendre le clavier, ils vont prendre l'écran, ils vont fondre les cartes mères, les cartes électroniques. Tout ça sera démantelé, refondu, retravaillé. Tous les matériaux sur un ordinateur bien dépouillé, on peut récupérer beaucoup de matériaux. Mais faut pas le mettre, faut pas le jeter n'importe où.
Oui, merci.
Alors on a évoqué la politique au niveau national. Est-ce que il y a des solutions politiques qui sont plus conscientes de ces questions-là ? Est-ce que par exemple ce que propose le Parti Pirate, assez conscient de ces sujets-là, est intéressant ?
Alors je ne connais pas le programme du Parti Pirate.
D'accord.
C'est trop vague pour moi, je ne peux pas être précis sur cette question, je suis désolé.
Ça c'est Lou hein, qui s'intéresse à tout ça, voilà. Donc c'est quoi ce Parti Pirate, Lou, alors ?
Je ne le connais que de l'extérieur, mais c'est un parti politique qui effectivement a une pirate, a repris le nom pirate qui est un synonyme de hacker. Qu'on utilise beaucoup dans le domaine informatique.
Je vous interromps. Pour moi, un hacker, c'est pas un pirate. Un hacker, c'est une personne qui essaye de comprendre.
Oui, c'est plutôt l'éthique hacker.
D'accord.
L'éthique... Ça lui tient à cœur, on peut dire, c'est ça.
Non, c'est avec un H.
Ah, pardon.
Avec un H.
Ah oui, hacker.
Je plaisantais, bien sûr.
Mais bref, voilà, c'est un tout petit parti qui essaye de faire prendre conscience au niveau politique, d'établir un engagement politique sur ces questions numériques, avec une conscience écologique derrière sur l'impact que le numérique a.
Justement, Damien, avez-vous un message à passer aux auditeurs sur, bah, le, sur ce que vous avez envie de transmettre comme information?
Eh ben, moi, je les invite à essayer Linux parce que c'est rigolo, ça change. Et puis, l'ordinateur que vous aurez avec Linux, ça sera pas le même que un ordinateur sous un Linux sous le Linux de votre voisin. Ça sera votre ordinateur. Il sera configuré par rapport à vos envies. Et voilà, et puis c'est rigolo. Ça change du système à fenêtre qui ressemble à celui du voisin. Voilà, c'est
donc on jette la pomme par la fenêtre, c'est ça que vous nous dites alors, c'est
tout
ça
à fait, hein. Tout à fait, exactement. Et on retourne sur la banquise et on va jouer avec les manchots.
C'est pour ça le pingouin alors, pour Oisux alors, d'accord.
Alors, c'est pas un pingouin, c'est un manchot.
Mince, bon, moi, j'étais pas loin quand même. Hein, donc, il n'est pas manchot quand même pour expliquer les choses, hein, donc ça va. Hein. Hein. Et vous, votre Ori, ça représente quoi votre logo alors du coup?
Alors, Ori en transition. C'est de mémoire, c'est un arbre, c'est un peu de la végétation.
Oui.
C'est Ludivine qui a créé le logo, qui a participé à l'atelier samedi. Voilà, donc c'est de la végétation, c'est de faire attention.
Il faut penser à notre nature, voilà, tout à fait.
Tout à fait.
Merci Damien.
Ralentir un peu.
Voilà, je vais laisser la parole à Alou qui va vous conclure avec vous parce que maintenant l'émission elle se termine, hein. On est arrivé pratiquement au bout. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu avec nous, de nous avoir expliqué pas mal de choses. J'espère que c'était très compréhensif. Et Lou, tu voulais finir avec quelque chose peut-être? T'avais pas un petit texte à nous lire, tu m'as dit?
C'est ça. C'est,
allez,
c'est
on se dépêche, alors, vas-y.
Il y a un texte qui a pris une grande symbolique dans l'esprit, dans l'éthique à cœur qu'on a évoqué. Il date de 1996 et c'était le moment où les premiers hackers, les premiers codeurs, comme Richard Stallman, dont on a parlé, avaient cette vision très libre et très ouverte du numérique et du cyberespace. Et ça a donné ce texte-là qui a été écrit par un Américain, John Perry Barlow, en 1996, et c'est la déclaration d'indépendance du cyberespace. Et non, j'en lis seulement quelques extraits.
Oui, parce que c'est alors, sinon, faut se dépêcher.
C'est gouvernement du monde industriel, géant fatigué de chair et d'acier, je viens du cyberespace, nouvelle demeure de l'esprit. Au nom de l'avenir, je vous demande, à vous qui êtes du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous, vous n'avez aucun droit de souveraineté sur nos lieux de rencontre. Nous n'avons pas de gouvernement élu, et nous ne sommes pas prêts d'en avoir un. Aussi, je m'adresse à vous avec la seule autorité que donne la liberté à elle-même lorsqu'elle s'exprime. Je déclare que l'espace social global que nous construisons est indépendant, par nature, de la tyrannie que vous cherchez à nous imposer. Vous n'avez pas le droit moral de nous donner des ordres et vous ne disposez d'aucun moyen de contrainte que nous ayons de vraies raisons de craindre. Le cyberespace est constitué par des échanges, des relations et par la pensée elle-même déployée comme une vague qui s'élève dans le réseau de nos communications. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n'est pas là où vivent les corps. Nous créons un monde où tous peuvent rentrer sans privilèges ni préjugés dictés par la race, le pouvoir économique, la puissance militaire ou le lieu de naissance. Nous créons un monde où chacun, où qu'il se trouve, peut exprimer ses idées aussi singulières qu'elles puissent être, sans craindre d'être réduit au silence ou à une norme. Vos notions juridiques de propriété, d'expression, d'identité, de mouvement, de contexte ne s'appliquent pas à nous. Elles se fondent sur la matière. Ici, il n'y a pas de matière. Ces mesures toujours plus hostiles et colonialistes nous mettent dans une situation identique à celle qu'ont connue autrefois les amis de la liberté et de l'autodétermination qui ont eu à rejeter l'autorité de pouvoir distant et mal informé. Nous devons déclarer nos subjectivités virtuelles étrangères à votre souveraineté et même si nous continuons à consentir à ce que vous ayez le pouvoir sur nos corps, nous répandrons sur la planète si bien que personne ne pourra arrêter nos pensées. Nous allons créer une civilisation de l'esprit dans le cyberespace, puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde que vos gouvernements ont créé.
Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, Damien.
J'ai médité.
Merci beaucoup. Merci de votre moment passé avec nous.
Hein. Merci à vous.
Éclairci sur le numérique. Et puis, je rappelle votre association, Ori en transition et Oisux. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Au revoir, à bientôt.
C'était une émission de la rédaction de RVM.